Saumur. Alors, est-ce que vous aimez les histoires? Oui, je savais que vous diriez oui. On va lire une histoire de l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, je vais rappeler un petit peu le contexte. Le roi David, tout le monde voit qui c'est? Bien. David a un fils qui s'appelle Salomon. Salomon va construire le temple pour que Dieu puisse venir habiter parmi son peuple à Jérusalem. Et puis Salomon va fermer les yeux, va mourir, et son fils Roboam va lui succéder. Or, son fils Roboam va s'entourer de mauvais conseillers, va prendre de mauvaises décisions, et ça va provoquer la division du royaume d'Israël en deux. Alors, on peut lire ça dans 1 Roi 12, normalement, voilà. Donc, l'histoire qu'on va lire, c'est Élie et la veuve de Sarepta, mais je vous précise le contexte avant de commencer. Tu dois avoir une carte du royaume, voilà. Donc, en fait, ça, c'est le royaume, je suis désolée, je me déplace, c'est le royaume d'Israël, et donc, en fait, il va être coupé en deux, ici. On va avoir le royaume de Juda, et puis au-dessus, le royaume d'Israël, en jaune, et en bleu, le royaume de Juda. Donc, là, il va y avoir les descendants de David, et puis le fils de Salomon qui fait sécession va emmener les tribus qui sont dans la zone située en jaune. C'est important, parce que notre histoire, elle prend place dans ce cadre-là. Et en fait, le fils de Roboam, Jéroboam, va devenir un roi, le premier roi du royaume du Nord, et il va entraîner le royaume du Nord dans le péché. Parce que il va décider qu'il faudrait pas que son peuple aille adorer le Seigneur à Jérusalem, qui est dans le royaume ennemi. Ça pourrait les ramener vers le royaume de Juda. Donc il va instituer un autre lieu de culte dans son royaume à lui, avec des veaux d'or, et donc il va commettre de l'idolâtrie, ce qui va marquer le début d'une longue histoire d'une déchéance du royaume du Nord. Le pire va être atteint avec le roi Achab et sa femme Jézabel. Je ne sais pas si ce sont des noms qui vous parlent. Vous pourrez lire leur histoire dans le premier livre des rois, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 16 et jusqu'au chapitre 22. Voilà, donc le roi Achab et sa femme Jézabel, c'est l'idolâtrie, la violence, tout ce qu'on peut faire de pire dans la relation avec le Seigneur, c'est là. Et c'est dans ce contexte que se déroule notre histoire. Donc on va lire le passage de 1 Roi 16, les versets 29 à 33 et le chapitre 17. On va y aller par petits morceaux, n'ayez pas peur. Alors, un prophète, alors est-ce que tout le monde voit ce qu'est un prophète? Ça parle à tout le monde, il parle de la part du Seigneur. Bien. Donc un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Achab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est, et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc, et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. On peut avancer. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois, je vais rentrer, préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. » Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Waouh, on va s'arrêter là. Excuse-moi. Élie reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Voilà, donc on va s'arrêter là pour une première partie. Alors on peut, si tu peux avancer, il doit y avoir une autre carte pour que vous puissiez situer un petit peu où était Élie. Alors voilà, le problème des... Donc la Samarie, le royaume du Nord, ok, et ça c'est le Jourdain, et l'Éternel dit à Élie d'aller se cacher au long du torrent du Térite qui est ici, d'accord. Et en fait, Sarepta, alors je sais pas si j'ai pas un pointeur, je sais pas si avec l'ombre je peux y aller, c'est tout là-haut, je peux y arriver. Sarepta, c'est tout là-haut dans la bande rose, il y a Sidon qui est tout au nord, et puis Sarepta au-dessus. Donc il va marcher, quand le torrent va s'assécher, il va faire 110 km pour aller là-haut. Et donc quand on est dans la zone rose là-haut, on n'est plus en Israël, on est chez les Sidoniens, donc en territoire païen. Voilà, ça a son importance pour la suite. Donc Dieu annonce une sécheresse par Élie, et puis Dieu le met à l'écart auprès d'un torrent, et puis ce torrent s'assèche, et Élie va à Sarepta. Il rencontre une veuve, et ils vont vivre deux épisodes forts. On va voir le premier maintenant, je vous raconterai le deuxième après. Et ces épisodes vont être vraiment des chemins de foi pour cette femme. Et on va voir que ce qu'elle vit nous parle à nous encore aujourd'hui. Donc, Élie quitte le torrent du Kérit, va en territoire non-juif, le territoire de Sidon, dans le village de Sarepta, où une veuve a été préparée pour subvenir à ses besoins. Dieu dit « J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » On peut se demander pourquoi Élie est obligé d'aller si loin dans le territoire du Nord et puis même de sortir. Et en fait, il ne faut pas qu'on oublie le contexte dans lequel est Élie. Il est prophète de Dieu, donc il est recherché parce que Akab et sa femme Jézabel ont décidé d'éliminer tous les prophètes du Dieu d'Israël. Donc il est en danger de mort. Et puis il est aussi celui qui a annoncé la sécheresse. Donc c'est celui par qui le malheur est arrivé en Israël, et donc le roi Akab est vraiment le cherche, vous lirez ça dans, si vous lisez les chapitres, le cherche vraiment parce qu'il a une sacrée colère contre lui, parce que c'est Élie qui a annoncé cette mauvaise nouvelle qui s'est réalisée. N'oublions pas non plus que dans le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, les gens se sont détournés de Dieu. Donc la parole et l'homme de Dieu, qui est Élie, ne seront pas reçus comme il se doit. Donc ce passage... Oui. Donc Élie est obligé de fuir, de partir loin pour assurer sa sécurité. Au passage, ce passage sera utilisé par Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 4 pour illustrer qu'un prophète n'est pas reçu dans son propre pays comme lui-même n'est pas reçu à Nazareth. Voilà. Revenons à Élie. Alors il arrive à Sarepta et là, on a l'impression qu'il rencontre complètement par hasard une veuve qui ramasse du bois. Apparemment, ils se reconnaissent. Le dialogue s'engage, comme s'il savait déjà que c'était elle que Dieu avait préparée pour lui. Et il lui demande directement de l'eau et du pain. Mais à ces demandes, eh bien, il n'y a pas la réponse positive et polie à laquelle on pourrait s'attendre. Au contraire, cette femme, elle va ouvrir son cœur et expliquer à quel point elle est désespérée, au point de s'attendre à sa mort et à celle de son fils. Elle expose son dénuement très clairement et très crûment, je dirais. On peut noter qu'elle a d'ailleurs bien compris à qui elle s'adresse, puisqu'elle dit à Élie « Aussi vrai que ton Dieu est vivant ». Elle a bien reconnu que Élie était un homme de Dieu, un homme de Dieu du Dieu d'Israël. Quand on demande à quelqu'un le convenu « Comment allez-vous ?», rares sont les gens qui osent nous dire comment ils vont vraiment, surtout quand ils vont mal. Et nous, on s'attend au traditionnel « Bien, et vous ?». Alors on est surpris quand quelqu'un ose nous dire la vérité sur lui. Et c'est ce qui va arriver à Élie. Mais au lieu d'être gêné, parce que nous des fois on est un petit peu surpris d'entendre toutes les misères qui frappent la personne en face de nous, bah Élie, au lieu d'être gêné, au lieu de répondre d'une manière neutre, ou d'essayer de fuir, ou de manière creuse, il n'esquive pas. Au contraire, il l'encourage cette femme, et il la rassure. Il lui dit « Sois sans crainte, on peut peut-être revenir sur... voilà. Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. » Dans certaines traductions, vous lirez « n'aie pas peur ». Alors dit comme ça, vous pourrez me dire « c'est facile, hein, quelqu'un vous annonce une catastrophe, oh, n'aie pas peur, ne crains pas, c'est facile à dire ». Mais, c'est Élie qui nous raconte ça, qui parle. Et Élie, il arrive d'avoir été nourri pendant des semaines par des corbeaux au bord d'un torrent, tout seul, couché au bord du Kérit. Donc je pense que le poids de la parole d'Élie est important. En plus, Les corbeaux dans la culture juive, ce sont des animaux impurs. Donc il a été livré par corbeau interposé. Je pense que ça a dû lui coûter d'accepter que Dieu utilise ces animaux impurs pour le nourrir. Donc la parole d'Élie est importante. Et c'est à partir de maintenant que ce passage devient vraiment intéressant pour nous. Parce que nous aussi, on va avoir des moments où on va connaître la peur, comme cette femme, le dénuement, l'angoisse. Des moments où peut-être même que la mort semblera être la seule issue à notre situation, comme cette femme aussi. Mais remarquez qu'Élie ne la contredit pas. Il ne cherche pas à la raisonner. Il la rassure et y confie en ce qu'elle a prévu de faire avec ses moyens humains. Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Autrement dit, ne change rien. Simplement, tout simplement, il va ajouter une demande, un petit quelque chose à son programme à elle. Et ça tient dans le mot que j'ai mis en rouge, « seulement ». Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi, pour ton fils et pour toi. Et tout est là, dans le « seulement ». Fais ce que tu as prévu. Ne change pas ton programme. Seulement, prépare-moi une petite galette et apporte-le-moi. Et bien souvent, quand on connaît des moments difficiles dans nos vies, Dieu agit exactement de la même manière. Il nous laisse aller au bout de nos raisonnements, même quand ils sont faux. Il nous laisse faire ce qu'on croit devoir faire pour régler la situation. Mais il va donner délicatement un tout petit complément d'information, un tout petit quelque chose, un petit élément nouveau dans nos pensées, un élément de plus. Il va nous demander un geste simple, il va nous demander une pensée, quelque chose de facile, d'accessible, mais qui va faire toute la différence et qui va changer toute la situation. Très souvent, cette pensée ou cette action, ce geste que Dieu va nous demander, ça va aboutir à ce qu'on le mette, lui, en premier, dans notre situation. Regardons de plus près. En faisant une galette pour Élie, en fait, elle sait que c'est un homme de Dieu, elle répond à la demande de Dieu. Et cette demande, c'est quoi? C'est « mets-moi en premier, serre-moi en premier ». J'arrive. Elle pourrait refuser, parce qu'elle va se priver d'une partie de ce qui lui reste, et visiblement, il ne lui reste vraiment pas grand-chose. Et elle va se priver pour un étranger. Mais Dieu lui parle, et elle l'entend, et il nous parle aussi dans cet exemple. Cette veuve, elle est appelée à mettre Dieu en premier dans sa vie, pendant cette épreuve, et à le servir à travers Élie. Et nous, ça peut être aussi à travers quelqu'un qui va être dans nos vies. Pour nous, c'est pareil. Dans nos situations difficiles, on est appelé à mettre Dieu en premier, à le servir d'abord, avant de faire ce qu'on avait prévu de faire, que ce soit contacter des personnes pour nous aider, aller à tel endroit, faire telle ou telle chose. Dieu ne change pas nos plans. Remarquez aussi que Dieu ne la charge pas d'un poids qui est trop lourd. Et pour nous, ce sera la même chose. Il ne va pas lui demander de faire quelque chose de compliqué. Et pour nous, ce sera la même chose. Cette femme, elle est appelée à faire ce qu'elle avait prévu, une galette. Des galettes, elle en a fait toute sa vie. Et ça ne demande pas des qualifications ou des compétences particulières. Elle allait de toute façon la préparer. Sauf qu'au lieu de tout garder pour elle, elle est invitée à servir Dieu en premier en servant Élie. Tout comme pour nous, prier, louer, lire la Bible, ça ne demande pas d'avoir fait des études de théologie, par exemple. Dieu va l'encourager d'autant plus qu'avec cette demande qu'il lui fait, vient tout de suite la promesse de la bénédiction. Et vous remarquerez que dans la Bible, souvent, il y a une demande conditionnelle. La promesse se réalise si on fait quelque chose avant. Et là, voilà ce que le Seigneur dit. « Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » Autrement dit, ce que tu prendras de toi et que tu me donneras, je te le rendrai, mais je te rendrai bien plus. À elle, maintenant, de mettre sa foi en action. Ou pas. Comme nous. Jésus va dire la même chose en Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, et là je rajoute, c'est le manger, le boire, le vêtement, vous seront données par-dessus. Rappelons-nous aussi la fois au cours de laquelle Jésus nourrit une foule de 5000 hommes. A priori, il n'y avait rien pour les nourrir. Ils ont écouté Jésus toute la journée. Le soir arrive, les disciples disent au Seigneur, écoute, il y a du monde, on est loin des villages, renvoie-les pour qu'ils puissent aller trouver de quoi se nourrir. Et Jésus, humour de Dieu, va leur dire, nourrissez-les vous-mêmes. Et là, vente, panique, quoi? Mais on n'a rien, faudrait qu'on prenne 200 pièces d'argent. Oh, à vue humaine, c'est impossible. Encore une situation impossible. Mais, observons le Seigneur. Il ne se fâche pas. Il ne crie pas. Il ne s'agace pas. Il ne le rappelle pas qu'il y a quelques jours, à peine, ils avaient guéri des malades et fait partir des démons. Vous lirez ça dans Marc 6. Il les avait envoyés deux par deux, ils sont revenus tout contents. Oui, Seigneur, on a guéri des malades, on a vu Satan tomber comme l'éclair, etc. C'est les mêmes, hein. Il leur dit pas, dites les gars, vous rappelez ce que vous avez fait il y a une semaine, là? Et là, je vous demande de nourrir des gens et vous n'êtes pas capables. Rien. Non, il dit rien. Qu'est-ce qu'il dit? Combien avez-vous de pain? Allez voir, autrement, comme la femme, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce que t'as là maintenant? Ils reviennent, ils ont 5 pains et 2 poissons. Bien trop peu pour 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Et même s'il n'y a pas ici de risque de mort dans cette histoire, il y a comme dans le récit d'Élie, le constat d'une insuffisance, il y a quelque chose qui manque. Mais Jésus ne dévie pas de son projet. Et il demande aux disciples encore une autre demande, apparemment très simple, tout à fait facile à réaliser, installer les gens par groupe. Pas compliqué. Et là, ils auraient pu dire que Jésus, allez Seigneur, ça ne sert à rien, on n'a rien à leur donner. Ils ont toujours le choix. Le Seigneur leur laisse le choix. Il ne leur impose pas. C'est pas un ordre qu'il leur donne. Mettez par groupe, sinon le feu de ciel va descendre, je vous extermine tous. Pas du tout. Mais ils obéissent. Ils mettent leur confiance en action. Et ils ont cette foi que si Jésus leur demande de faire quelque chose qui apparemment ne rime à rien, c'est pas en vain. Et le miracle se produit. Jésus bénit les pains et les poissons et il nourrit la foule. Et il nourrit tellement la foule qu'il y aura 12 corbeilles de surplus. Voilà. Revenons à Sareptan. La femme part et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Élie. Elle, sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Ce petit geste, cette obéissance sur une toute petite chose, a une portée immense. Dieu ne l'a pas forcé, il lui a laissé le choix, il a mis son plan sur la table et il a attendu. Parce que si la promesse a été donnée dès le départ, vraiment, il restait à cette veuve sa part à faire, aller et faire cette fameuse galette. Comme aller compter les pains et les poissons pour les disciples ou installer la foule par groupe. À elle d'accepter et de faire, à nous d'accepter et de faire ce que le Seigneur met sur nos cœurs. À nous d'y croire, à nous de lui faire confiance. De faire ce qu'il nous demande, parce qu'alors seulement, on recevra ce qui a été promis. Que retenir ici? Premièrement, que Dieu se sert de la tempête de la vie de cette femme pour approcher son cœur et la faire entrer dans une nouvelle relation avec lui. Et ça va être souvent le cas pour nous aussi. Vous remarquerez que les gens sont nettement moins réceptifs au Seigneur quand tout va bien, mais quand ça commence à tanguer, alors là, on se pose les bonnes questions. Deuxième chose à retenir, en honorant Dieu en premier, en donnant avant même de recevoir, eh bien, comme cette femme, nous, on ne manquera jamais de l'aide du Tout-Puissant. Il tiendra sa parole. Et nous aurons même plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est une histoire qui nous touche, parce qu'on voit la sollicitude de Dieu pour cette femme. Certes, Dieu s'occupe d'Élie, il lui a prévu cette femme pour le nourrir, il a prévu de le protéger, mais il voit aussi la détresse et les besoins de cette femme et il prend soin d'elle. Et je trouve, ce qui me touche, moi, c'est que ça révèle la douceur de Dieu, son amour pour chacun d'entre nous et sa manière de s'y prendre. Dieu n'est pas un Dieu qui fracasse. Il s'impose pas, il vient tranquillement. Cette femme, elle est au bout, elle s'attend à la mort de son fils, c'est quand même terrible. Elle voit ses ressources diminuer, hein. Remettons-nous dans le contexte, la sécheresse est là depuis des années. Elle a vu l'eau qui a tari, les récoltes qui ont fini de pousser, il n'y avait plus rien, plus de réserves, les réserves qui diminuent de plus. Elle a vu tout ça, elle est au bout du rouleau si on peut dire. Mais Dieu n'en a pas fini avec elle. Et que ça vous encourage aussi ce matin, si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu la prend comme elle est. Il lui demande pas, fais un jeûne de 40 jours, fais des nuits de prière, rien, non. Il la prend comme elle est, avec ce qu'elle a, et il lui parle. Il lui donne les moyens de répondre à sa demande. Et ce sera la même chose avec nous. Dieu ne nous demandera pas de choses que nous n'avons pas, ou de choses que nous ne pouvons pas faire pour pouvoir entrer dans nos vies. Mais l'histoire de cette femme ne s'arrête pas là. On continue. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur le lit, sur son lit. Puis il implora l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par trois fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant « Viens voir, ton fils est vivant. » Alors la femme s'écria « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » Ah, elle n'en a pas fini cette femme avec le Seigneur. Hein. Tout ça pour ça ? À quoi bon survivre à la famine si c'est pour perdre son fils ? Alors ce qui est intéressant dans cette suite de l'histoire, c'est de voir la réaction de la femme et ensuite la réaction d'Élie. Et c'est ce qu'on va voir, c'est les deux points de vue qu'on va suivre. Ce que dit la femme à Élie, c'est vraiment intéressant. Dans certaines traductions, là on a « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu ? Vous pourrez lire « Que me veux-tu, homme de Dieu ?» Et elle vient et elle lui fait des reproches. « Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Waouh ! Ça, c'est une réaction 100% humaine. Ça vous parle ? Quand on a un gros coup dur, combien se tournent vers Dieu en cherchant une explication à ce qu'ils vivent avec les fameux « pourquoi ?» Et le soupçonne, voire même l'accuse, d'en être à l'origine du coup dur. Parce que ce que cette femme dit ici, c'est de ta faute, Élie, si mon fils est mort. En gros, c'est de ta faute, Dieu, si mon fils est mort. Et pire, elle l'accuse d'être venue pour lui faire payer ses fautes. En fait, on réalise que cette femme n'était pas du tout en paix avec son passé. Et combien, parmi nous, ont déjà eu cette pensée que si un malheur leur arrivait, c'était quelque part une punition de Dieu pour des fautes commises dans le passé. Pour elle, il y a un lien entre les fautes qu'elle a commises et la mort de son fils. C'est tellement évident qu'elle n'arrive même pas à se poser la question de « est-ce que c'est vraiment une bonne question ?» Non, pour elle, c'est comme ça. Pour elle, un Dieu qui l'attend au virage et qui veut lui faire payer ses erreurs, ce n'est pas un problème. Et cette vision-là, malheureusement, elle est aussi dans nos églises, parfois. Pourtant, cette femme, elle vient d'expérimenter la grâce de Dieu et la provision de Dieu qui l'a sauvée de la mort de faim. Elle a vu ce qu'il avait fait et qu'il avait fait même au-delà. Mais elle est tellement dominée par sa conception fausse, et c'est une conception païenne de Dieu, qu'il ne lui vient même pas à l'idée que ce serait paradoxal pour Dieu de la sauver de la mort de faim pour ça, pour la punir. Après, quel est l'intérêt de Dieu de la sauver ? Ou alors, c'est même pire, elle voit en Dieu une puissance réellement méchante, voire même sadique, qui l'aurait sauvée pour mieux pouvoir la faire souffrir ensuite. C'est peut-être comme ça qu'étaient ses dieux dans le territoire de Sidon, là où elle vivait, je ne sais pas. Et c'est toute la question du sens de l'épreuve qui est posée ici. Pourquoi ? Reprenons le texte. Elle fait le lien entre ses fautes et la mort de son fils. Elle s'accuse. Elle blâme Élie à demi-mot, elle blâme Dieu. Mais Élie, lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit de tout ça. D'ailleurs, Élie, si vous regardez bien, il ne dit rien du tout. Il ne dit rien sur la raison de cette mort. Et Dieu n'a rien dit à Élie non plus. Élie ne rentre pas dans la conversation. Il ne rentre pas dans son jeu. Il n'essaye pas de se justifier ou de justifier Dieu ou d'expliquer. Et ça, attention, quand quelqu'un vit quelque chose de compliqué autour de nous, souvent on se sent obligé de défendre Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de nous pour le défendre. La seule parole que va dire Élie, c'est « Donne-moi ton fils. » Et ça, c'est une nouvelle étape pour cette femme. Donner ce qu'elle chérit plus que tout. Elle n'en a qu'un enfant, visiblement. C'est le lâcher. C'est le donner à un autre qu'elle. Et parfois, pour nous, pour qu'on sorte de notre épreuve, nous aussi, on doit lâcher quelque chose qu'on tient, mais qui nous empêche d'avancer, quelque chose qui peut être même mort aussi, et qu'on porte encore. Pour elle, c'est son fils. Élie, on lit, il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait, et l'étendit sur son lit. C'est étonnant parce que malgré ses soupçons et ses accusations, elle donne quand même son fils à Élie, il accepte qu'il le prenne. Et le miracle se produit. Élie prie, s'allonge trois fois sur l'enfant qui reprend vie, son souffle revient en lui. Élie le rend à sa mère, qui enfin reconnaît en lui un véritable prophète qui parle au nom du seul vrai Dieu. Elle retrouve ce qu'elle avait donné, ce qu'elle avait accepté de lâcher. Et elle le retrouve en mieux, puisqu'elle le retrouve vivant. La femme s'écria, « Je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » Alléluia, ça y est, elle a expérimenté qui était Dieu vraiment. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'elle a vécu cette femme ? Bon, on peut se dire que c'est une épreuve qui est un moyen utilisé par Dieu pour véritablement entrer dans son cœur. Comme parfois, et on l'expérimente à Loudun, les épreuves peuvent être un moyen pour que vraiment Dieu dise « Maintenant, tu t'accroches à moi ou pas ?» Souvent, on pense que les gens qui ont vécu un miracle, un accomplissement, un exaucement de prière dans une situation grave, ben, ils ont expérimenté vraiment qui était Dieu et ils ont développé une relation saine, vivante avec lui. Et ben, on voit avec l'exemple de cette femme que c'est pas toujours le cas. Elle avait pourtant Élie sous les yeux, hein, tous les jours. Lui, il vivait sa vie d'homme de Dieu, donc je suppose qu'il priait. Il avait une vie avec le Seigneur et elle a vu la provision de Dieu. Elle a vu chaque jour, cette femme, la farine et l'huile se renouveler de manière surnaturelle. Elle a vu le temps passer et la nourriture qui suffisait pour eux tous. Mais sa foi, sa confiance, sa connaissance de Dieu était imparfaite, voire même était encore fausse. Et il a fallu qu'elle passe par la mort et la résurrection de son fils pour qu'enfin elle puisse avoir une vision juste de qui est Dieu. Je voudrais maintenant revenir plus précisément sur le lien que cette femme fait entre ses fautes et la mort de son fils, comme si c'était une punition. C'est important parce que je voudrais vous rappeler, et nous rappeler, que toutes les fautes qu'on a pu commettre avant de connaître le Seigneur, et toutes les fautes qu'on a commises depuis qu'on le connaît, parce que malheureusement on n'est pas parfait, et on ne le sera que quand on sera là-haut, eh bien ces fautes, si on est devenu enfant de Dieu, si on les a reconnues, si on les a nommées, confessées, qu'on a demandé pardon au Seigneur en étant sincère, elles sont effacées. Jésus, il vous voit à travers le sang, le Seigneur, pardon, vous voit à travers le sang de Jésus, vous êtes purifié, il n'y a plus rien. Si on ouvre le cahier de compte, les pages sont vides. La parole nous le dit, 1 Jean 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous reconnaissons nos péchés, ne l'oubliez pas, Dieu pardonne pas comme ça. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Psaume 32, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Dieu ne prend pas plaisir à nous punir. Il n'est pas un comptable qui note les bonnes et les mauvaises actions. Et ce que nous vivons, ce n'est pas une punition pour nos fautes. Ça me paraissait vraiment important de le rappeler ce matin. Par contre, si nous, parce que j'en fais partie largement, si on se met en danger, si on fait des choses qui sont mauvaises pour nous, et qu'on le sait, et qu'on persiste, ça c'est une autre affaire. Mais même là, si vous vous en prenez conscience et que vous demandez pardon, que vous vous repentez, le Seigneur vous pardonnera. Certes, il y aura des conséquences avec lesquelles il faudra vivre, mais vous serez pardonné. Dieu ne prend pas plaisir à nous punir. Ne l'oublions pas. Voilà, je clôt la petite parenthèse. Je reviens à mon histoire et je regarde ce qui se passe du point de vue d'Élie. Parce que je veux m'attacher à sa réaction, parce que nous aussi, on peut se trouver en face de frères et sœurs qui vivent des situations vraiment compliquées, des choses qui leur tombent dessus et on ne sait pas forcément comment réagir. Ils peuvent vivre une épreuve très difficile et ils vont réagir en fonction de leur foi, de leur maturité dans la foi qui n'est pas forcément la même que nous. Et la façon dont Élie réagit, je trouve que c'est des pistes intéressantes pour nous. Élie n'a pas l'air d'avoir été averti par Dieu de ce qui allait se passer. On le voit à sa prière dans la chambre. Mais il panique pas. Il se laisse pas stresser. Au contraire, il garde son calme. Il ne parle pas. Il ne rentre dans aucune discussion sans fin avec la mère. Il fait ce qu'il sait faire. Aller dans la présence de Dieu, prier et agir en conséquence. Et on découvre dans sa prière que visiblement pour lui aussi cette mort est un problème. Elle n'a pas de sens. Quand il dit « Éternel, ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle, est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir mon fils ?» Nous aussi on peut ne pas comprendre ce qui se passe dans la vie de nos frères et sœurs et se demander si c'est vraiment le Seigneur qui veut ça. Mais il ne s'attarde pas à chercher et à attendre une réponse de Dieu. Il ne vient pas argumenter. Il agit en se couchant par 3 fois sur l'enfant et en implorant Dieu, celui qui est l'auteur de la vie, de faire revenir le souffle de vie. Élie ne comprend pas, et nous parfois on ne comprendra pas non plus ce qui se passe dans la vie de nos frères et sœurs, mais il a confiance en Dieu. Et malgré l'absence de réponse, il prie. Et Dieu exauce sa prière, le souffle de vie revient dans le petit. Pour Élie, ça peut être un entraînement, parce que si vous lisez dans le premier livre des Rois, les chapitres 17 à 22, vous verrez que ce qu'Élie va vivre après ce séjour à Sarepta, c'est une grosse épreuve puisqu'il va retourner auprès d'Akab pour confronter les prophètes du dieu Baal et voir qui est le vrai dieu, le dieu Baal ou le dieu d'Israël. Et c'est une confrontation, si elle tourne à son désavantage, il va mourir, il le sait. Là, quelque part, il a eu un peu un entraînement dans sa foi. Je comprends pas tout, mais Seigneur, je te fais confiance. Mais nous, qu'est-ce qu'on en retient ? On retient qu'on ne comprendra pas toujours tout, qu'on pourra se sentir aussi démuni que celui ou celle qui se confie à nous et qui doit passer par un chemin de foi ardu. On peut retenir comme Élie que notre seule arme dans ces cas-là, c'est la prière et l'écoute. Notre foi peut prendre le relais de celle de celui qui est éprouvé. Même si lui, il aura toujours sa part à faire, hein, ce qu'a vécu la femme, c'est la même chose pour nous, lâcher, faire confiance, perdre pour mieux retrouver. Mais Dieu donne toujours un sens à ce qu'on vit, toujours. On ne perd pas notre temps. Et quand on prie les uns pour les autres, on se fortifie, on fortifie notre foi et on accomplit la volonté de Dieu pour son Église. Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Plusieurs parmi nous, à Loudun, parmi vous à Saumur sûrement, continuent de traverser des épreuves, en eux-mêmes ou dans leur famille, parmi leurs proches. Et à chaque fois que la prière est demandée, je sais que l'Église répond présent. Et c'est une grâce. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves, parce qu'elles sont différentes, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est fidèle, et que par la prière, par les encouragements qu'on peut se donner les uns aux autres, eh bien on va consolider les liens qui nous unissent et qui passent tous par Christ. C'est notre point commun à tous. Ces temps, c'est certain, c'est des temps qui enracinent l'Église dans la dépendance à Christ. Ça fortifie nos cœurs dans la puissance de la prière. Et ce que je vous ai partagé au début pour Loudun, j'espère que ça vous encourage vraiment. Ça renforce notre communion fraternelle et ça conduit ceux qui le veulent bien à s'approcher toujours plus près du cœur de Dieu. Alors depuis le Covid, on voit bien qu'on traverse un temps au cours duquel le Seigneur secoue son Église. Tout ce qui est mal affermi est bien mis à mal, mais c'est pas pour le mettre à terre. C'est pour, au contraire, qu'on en prenne conscience et qu'on le consolide. Si comme la veuve de Sarepta, individuellement, on fait ce petit pas, ce petit geste que le Seigneur nous demande de faire, on verra sa provision surabonder parce qu'il est fidèle. Si comme la veuve de Sarepta, nous lâchons ce qui entrave notre marche avec le Seigneur, si nous lui remettons cette fausse croyance ou cette peur, il nous rendra la vie au centuple. Alors, et je terminerai par ça, on pourra témoigner comme Paul que dans l'Église, et vous trouverez ce verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Dans l'Église, ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Tenons bon, frères et sœurs, en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Soyez bénis.